Vous arrivez à Buenos Aires, vous prenez le taxi, il y aura du tango à la radio, plusieurs radios en diffusent, plusieurs télévisions y consacrent des émissions. Les Argentins de Buenos Aires ont gardé une familiarité forte avec le genre tango, notamment avec la musique.
Ce qui est le tango dans ma vie, c'est que les 95% des tangos que je joue, et Dieu sait qu'ils sont beaucoup, je les ai appris parce que l'oreille a fonctionné et je les gardais dans l'oreille et c'est fini.
Il y a une tradition dans notre musique qui est de s'approprier des mélodies et de vraiment les triturer et les ressortir avec beaucoup de personnalité.
Tango. Alors, je ne suis pas Alban Berg, je suis Astor Piazzolla, compositeur. C'est mon majeure émotion de savoir que ma musique représente la cité de Buenos Aires.
France Culture, la série musicale. Zoé Sfez.
Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour une émission toujours en direct, toujours libre de toutes les matières, de toutes les substances, de toutes les mélancolies, de tous les renouveaux. Une émission Tanguera, une heure de radio sur la musique et en musique. C'est bien sûr la série musicale, bienvenue. Chose promise, chose due, on continue notre exploration du patrimoine musical argentin. Nouvel épisode consacré ce dimanche au tango. Cette musique qui est née en Argentine, cette pensée triste qui se danse, comme disent les poètes qui ont écrit tant de tangos. Musique dont le charme a si bien opéré depuis qu'elle s'est globalisée il y a peu ou prou une centaine d'années, qu'on n'en sait plus vraiment de quoi on parle quand on parle de tango. Est-ce qu'on parle de la danse, si délicieusement sensuelle, provocante, qu'elle a conquis le monde entier, les salons les plus huppés, en Amérique latine mais bien sûr aussi en Europe, qu'elle a trouvé de vrais renouveaux, d'autres écoles par exemple aux États-Unis, ou est-ce que c'est de la musique tango? Oui, mais de laquelle parle-t-on? Des tangos grésillants, des origines, de la Guardia Vieja, celui de Astor Piazzolla, dont vous entendiez ici la voix, chanté ensuite par Grace Jones, ou du tango nouveau millénaire des Bretons du Gotan Project, ou encore des tangos parodiques, comme Hernandez Hideaway, qui peuple les films de Quentin Tarantino. Le genre, en fait, a été tant repris, trituré, il a fait l'objet de tant d'appropriations qu'on en oublie parfois. Eh bien, les interprètes originels, ceux qui ont écrit l'histoire du tango en Argentine, où il reste encore aujourd'hui la musique nationale, l'épopée originelle à laquelle on ne cesse de revenir. Décennie après décennie, une histoire évidemment bien trop longue pour qu'on la raconte exhaustivement, en une heure, en tout cas en détail, mais qui a une constante sur laquelle on va essayer de revenir, à laquelle on va tendre l'oreille. Le tango, ce genre qui a l'air si patrimonial, est en fait d'abord et avant tout une affaire d'avant-garde, d'Osvaldo Pugliese à Astor Piazzolla, de Carlos Gardel à Lito Nebbia, de ses débuts à Rio de la Plata à ceux qui continuent encore aujourd'hui d'en repousser les limites. Le tango reste un terreau d'expérimentation infinie que l'on explore aujourd'hui dans une balade comme toujours subjective et fatalement non exhaustive dans la série musicale sur France Culture.
Thank you.
Un violon, un bandoneon, une contrebasse, un piano, c'est donc une formation tanguera typique, celle de Tango Motan, mais un quatuor de tango augmenté. Vous écoutez Energetico, issu du dernier EP intitulé Ambition, qui dit bien son nom, de ce groupe de tanguistes qui sont en réalité français. C'est une exception à la règle. Je contreviens déjà à la consigne que je m'étais donnée en début d'émission, mais ce nouvel album de ce quatuor français qui se revendique du grand maître dont vous entendrez bientôt les plus belles œuvres, Oswaldo Pugliese, est un bon point de départ pour entrer dans notre sujet, celui du tango. L'évolution de ce genre en un peu plus d'un siècle raconte bien à quel point il n'a cessé, malgré des signes immédiatement reconnaissables et presque trop surannée, de se renouveler année après année, décennie après décennie, avec quelques moments d'accalmie, de pause, voire de régression. Le tango, où est-il né? À Rio de la Plata, cette ville qui est située à l'embouchure de l'océan Atlantique et qui sépare l'Argentine de l'Uruguay. C'est là, en réalité, que se mélangent toutes les populations au, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, toutes les populations qui ont atterri sur ces terres. On y trouve à la fois eh bien, des esclaves, des descendants d'esclaves originaires du Congo, c'est eux qui auraient apporté le terme tango, qui, dont l'étymologie voudrait dire lieu fermé. Mais tango pourrait aussi être une onomatopée qui viendrait du son d'un tambour, de la musique traditionnelle du condomblé, cette musique à la fois rituelle et profane que pratiquent les descendants d'esclaves du Congo. On trouverait le mélange de cela et bien sûr de la habanera, qui est d'origine cubano-espagnole et qui, parce qu'on est à l'embouchure d'un océan, pourrait être mélangé à ces rythmes du condomblé. On trouve aussi la milonga qui, elle, vient de la pampa argentine, sorte de complainte des paysans solitaires amenés à travailler la terre seuls et qu'on jouait à l'époque accompagné d'une simple guitare, une mélodie relativement basique et répétitive. Ce serait la conjonction, la rencontre entre ces trois types de musique qui aurait donné lieu à ce terme tango et à la manière dont on le danse. On le danse donc au départ à Rio de la Plata et on le retrouve ensuite dans les faubourgs de Buenos Aires, où s'entasse une population qui est de plus en plus nombreuse en ce début du XXe siècle. L'Argentine est une terre d'élection pour les immigrants, notamment italiens. On danse alors ce qu'on appelle un tango qu'on qualifierait aujourd'hui de caniengue, un tango canaille, qui est exécuté essentiellement dans les bardels ou dans les bars de rue par des garçons qui sont à la fois le côté féminin et le côté masculin de la danse, peu par des femmes. C'est là, en tout cas, que ce tango naîtrait et qu'il se formalise. Il est formalisé assez vite au début du XXe siècle, avec ou sans bandoneon, la question reste ouverte. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les tenanciers de la Guarda Vieja qui le jouent. Et naissent à partir des années 10, des années 15, les tout premiers grands tubes du tango, écrits peu ou prou dans la première décennie et qu'ensuite, vous allez le voir, on retrouve tout au long du siècle parmi ces grands standards du tango qui s'imposent grâce aux tout premiers enregistrements. On trouve la Morocha, interprétée ici par Juan D'Arienzo.
Thank you.
Roberto Firpo et la Ménestère, l'aube. Nous sommes dans les années 1920, à l'époque. Des millions d'Italiens, de Français, d'Espagne, d'Espagnols débarquent dans cette Argentine en pleine explosion des années 20, juste après la grande boucherie de la Seconde Guerre mondiale. À ce moment-là, le tango a gagné à peu près tous les établissements de divertissement de la capitale, Buenos Aires, boosté notamment par cet afflux de nouveaux migrants. On le joue, on le danse dans les cafés, donc dans les cafés plutôt populaires, mais aussi dans les cabarets de plus en plus chics et dans les salons de baile. À l'époque, c'est la danse, le rythme donc qui prévalent. Ce sont des hommes évidemment qui aiment danser cette danse où on estime que c'est la fierté, le style, l'esprit qui prime, la façon dont on réinterprète même le moindre pas de danse. Ce sont des hommes qui viennent de toutes les classes sociales qui dansent ce tango, des plus pauvres aux messieurs les plus distingués. Les danseuses, elles, restent encore à l'époque d'origine modeste. Les milongueras, celles qui dansent dans les milongas, sont plus ou moins assimilées à des prostituées, en tout cas à des femmes de petite vertu qui n'ont pas suffisamment de sous pour vivre par leurs propres moyens. Alors musicalement, ça se sent quand même, tout de même, cette involution de la place du tango dans la société. Le tango est de plus en plus loin de ses origines modestes qu'on décrivait tout à l'heure. Il se codifie, il se complexifie aussi. Et c'est à cette époque-là que deux écoles s'affirment. D'une part, les traditionalistes, fidèles à ce qu'on appelle la Guardia Vieja, que vous entendiez tout à l'heure, et les évolutionnistes. Celui que vous venez d'entendre, Roberto Firpo, fait partie de ceux qui vont d'une certaine manière amener le tango vers une forme de modernité. Roberto Firpo, qui est un musicien confirmé et qui va d'une certaine manière mettre en œuvre ce qu'on appellera la révolution décaréenne. Ses compositions deviennent de plus en plus mélodiques, on l'entendait là avec la place du piano qui marque le rythme et qui en même temps ornemente la mélodie, qui ne se cantonne plus simplement à scander le rythme pour les danseurs. Dans la même voie, à la même époque, un autre pianiste qui va énormément compter lui aussi, ouvrir une autre branche, il s'appelle Enrique Delfino et il est l'initiateur d'un courant qu'on appellera de la tango romanza, mélodie, envolée lyrique, musicalité très claire, notamment avec ce tango-là qui fait fureur dans les années 30, Re fa si. Thank you.
como yo obligo, mándese un trago, que hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar. Beba conmigo y si se empaña, de vez en cuando mi voz al cantar. No es que la llore porque me engaña, yo sé que un hombre no debe llorar. Si los pastos conversaran esa pampa, le diría de qué modo la quería, con qué fiebre la adoré. Cuántas veces de rodillas tembloroso yo me hincado bajo el árbol deshojado donde un día la besé. Y hoy al verla envilecida, otros brazos entregada, fue pa' mí una puñalada y de senos me cegué. Y le juro todavía no consigo convencerme cómo pude contenerme si ahí nomás no la maté. Tomo y obligo, mándese un trago, de las mujeres mejor no hay que hablar. Todas amigos dan muy mal pago, y hoy mi experiencia lo puede afirmar. Siga un consejo, no se enamore, y si una vuelta le toca hocicar, fuerza canejo, sufra y no llore, que un hombre macho no debe llorar.
La voix de Carlos Gardel, le mythe, le père spirituel de ce qu'on appelle le tango canción, le tango chanté. Carlos Gardel est une figure extrêmement importante à la fois pour le soft power du tango à l'extérieur de l'Argentine, mais au sein même, pour son image de marque au sein même du pays. Carlos Gardel, c'est un jeune homme qui a été formé très très jeune au tango. Lui vient de classe plutôt populaire, mais néanmoins, il se met à chanter au début du siècle. Et c'est lui qui va réussir d'une certaine manière parce qu'il a ce visage de jeune premier, cette voix très expressive qui peut passer de l'allegretto au moderato le plus doux. C'est lui qui parvient, notamment avec Mi Noche Triste, l'un de ses tout premiers tubes vendus au disque, à ériger le tango comme une musique sentimentale et à la débarrasser enfin de cette étiquette de musique sale, de musique obscène, et qui va permettre qu'on puisse écouter du tango, le danser dans toutes les couches de la société, y compris dans les familles. Carlos Gardel, qui a un succès énorme entre 1915 et 1933, c'est lui qui, alors que le tango est disséminé partout dans le monde, aux États-Unis mais aussi en Europe, grâce aux ouvriers qui voyagent et qui emportent les disques, la danse et la musique avec eux. Ce tango qui plaît beaucoup à Paris, où on aime la musique exotique, Carlos Gardel va y faire une tournée triomphale en 1933. C'est lui qui, d'une certaine manière, vient adouber, baptiser l'une des premières milongas parisiennes, rue de Lappe, qui lui survivra de nombreuses années. Tournée triomphale qui l'emmène aussi à New York, mais qui cause aussi sa perte, puisque Carlos Gardel meurt tragiquement dans un accident d'avion en 1935. Cette mort va faire de lui un espèce de demi-dieu qui règne encore aujourd'hui sur le cœur des Argentins. Mais sa mort aussi signe le début d'une ère catastrophique à la fois pour l'Argentine mais pour le tango aussi, puisque c'est la década infame, la décennie infâme, qui a commencé quelques années plus tôt. Crise économique, évidemment, celle de 1929, avec un crash boursier qui fait beaucoup de mal à cette jeune nation. Quelques mois avant, chape de plomb politique, puisque le pouvoir a été pris par les militaires, et c'est le début d'un premier coup d'État, coup dans la démocratie, qui, on le sait, inaugure une longue tradition qui va se perpétuer, malheureusement, jusqu'aux années 80 dans ce pays. La répression sévit, évidemment, comme à chaque fois, et les salles de spectacle, les bars, les cabarets ferment. De nombreux orchestres ferment aussi leurs portes. Le nombre de formations musicales qui font du tango, en fait, se réduit. Et c'est ainsi que de ce fait-là, ne subsistent plus que quelques orchestres qui sont ceux qui vendent le mieux, qui peuvent vivre. Et l'innovation faiblit un tout petit peu dans ces années 30-40. Il n'empêche néanmoins que beaucoup de musiciens tiennent bon. C'est le cas notamment d'Osvaldo Pugliese, qui est l'un des plus grands novateurs, malgré tout, de ce tango orchestral. C'est la grande époque des orchestra typica, des orchestres typiques qui jouent du tango, musique qui se complexifie, musiciens qui sont de mieux en mieux formés, qui sortent pour la plupart désormais des conservatoires, les arrangeurs deviennent primordiaux, et vous allez l'entendre ici, on complexifie, on rend la musique de plus en plus riche. Cet exemple, c'est celui de la yumbia, qui est l'un des plus grands succès des années 30 en Argentine. Après Osvaldo Pugliese et Sayumbia, hyper dynamique, vous l'avez entendu. Vous entendez ici un autre représentant de cette grande ère. Les Orchestra Tipica, le Carlos Di Sarli Histo Orchestra Tipica dans El Choclo, ce tube que vous avez nécessairement reconnu à l'oreille, tube qui datait lui aussi des années 1910, la même époque que El Amanecer. On aurait pu écrire une histoire du tango juste en écoutant les reprises, les réappropriations par les différentes générations de tangueros, de ces quelques titres qui sont vraiment la matrice de cet art, l'art du tango qui donc est en pleine période de, à la fois de pause mais d'évolution. Vous l'entendez ici, hein, des approches différentes de cette musique, une grande amplitude, des arrangements extrêmement châtiés, extrêmement complexes. Vous l'entendez aussi, c'est une musique entièrement dédiée à la danse. Les danseurs vont garder, vouer un culte à Osvaldo Pugliese, hein, qui est considéré comme à la fois le parangon de ce qu'on fait en termes de complexité musicale pour le tango, mais c'est un tango qui reste toujours dansable et c'est ça qu'on apprécie. Osvaldo Pugliese, qui est donc l'un des chefs de file de la nouvelle garde, mais qui garde cette construction orchestrale très très libre, en fait, très contrapuntique, qui va beaucoup inspirer un homme à qui on devra beaucoup le renouveau du tango, c'est évidemment Astor Piazzolla. Mais Astor Piazzolla, il a commencé, lui, dans l'orchestre d'un autre très très grand bandéoniste, sans doute l'un des plus grands du XXe siècle. Il s'appelle Aníbal Troilo. C'est un homme qui a commencé en jouant du piano dans un orchestre de cinéma, qui a commencé à jouer du bandoneo dans un orchestre de salle de cinéma à l'âge de 11 ans. Donc c'est vraiment un routier de la musique. Lui n'a pas été formé du tout dans les conservatoires de musique. Néanmoins, quand il forme son orchestre, il ne veut jouer qu'avec les meilleurs. Troilo, c'est vraiment un grand innovateur, pas suffisamment pour notre ami Astor Piazzolla, qui le quittera dans les années 50 pour créer non plus la nouvelle garde, mais vraiment la vanguardista. En tout cas, il faut écouter ce Nocturne d'Aníbal Troilo pour comprendre d'où vient matriciellement notre ami Piazzolla qui va lui révolutionner le tango. Thank you. Hannibal Troilo Nocturna et sur Orchestra Tipica où démarre un jeune bandoneoniste du nom d'Astor Piazzolla qui est né comme le tango à Rio de Plata. En réalité, c'est très intéressant d'entendre ces trois orchestres parce qu'on comprend bien qu'il y a vraiment une logique presque jazzistique. Tout le monde utilise les mêmes standards mais impose son style en véritablement maniant les tempos, les couleurs. C'est ainsi que Piazzolla commence sa carrière de tanguero. C'est une carrière presque contrariée puisque Piazzolla est donc né d'émigré italien, on l'entend bien comme quasiment l'intégralité des musiciens que vous avez entendus, Pugliese et Di Sarli, sont des noms profondément italiens. Il est né à Mar del Plata, mais en réalité, il ne se destinait pas à une carrière de tanguero, même si son père lui offre un bandoneon alors qu'il a 8 ans. Il découvre en réalité la musique classique, et notamment Sébastien Bach, Rachmaninoff, dans la cour de son immeuble d'enfance, où a émigré Béla Vilda, un ancien élève justement de Rachmaninoff, un musicien russe. Et c'est ainsi que naît la fascination de Piazzolla pour la musique classique, beaucoup plus que pour le tango. D'ailleurs, quelques années plus tard, il découvre la musique classique live avec un concert du violoniste Elvino Vardaro, qui va devenir un peu son idole, l'idéal auquel il aspire. Néanmoins, à 17 ans, quand même, il se rend compte que pour vivre professionnellement de la musique, il faut qu'il soit un tanguero. C'est comme ça qu'il intègre cet orchestre d'Hannibal Troilo. On sait que très vite, il propose des arrangements qui sont à la fois très novateurs, mais sans doute un peu trop novateurs pour Troilo, qui ne cesse finalement de lui admonester des remontrances, qui lui demande de se cantonner à des frontières plus strictes, celles de l'orchestre, puisqu'il n'est pas seul à jouer. C'est ainsi que Piazzolla, dans les premières années de sa vie, les 20 premières années de sa vie, change d'orchestre, essaye de jouer, puis décide finalement, peut-être en 1944, d'abandonner le tango. C'est là qu'il commence à lâcher un peu la bride de sa créativité, qu'il se met à étudier la musique plus ou moins classique avec certains des musiciens qu'il a rencontrés, notamment à la radio. Il va composer notamment une petite sinfonietta pour Buenos Aires qui va lui valoir un prix de composition et une bourse pour Paris, où il finira par recevoir l'enseignement suprême, celui de Nadia Boulanger. Mais avant cela, il convient d'écouter justement cette symphonie à Buenos Aires, ce mouvement presto marcado, où vous le comprenez, Piazzolla veut faire de la musique classique à l'époque. Tous les musiciens d'orchestre avec qui il a joué sont catégoriques, ça n'a rien à voir avec du tango. We'll be right back. Un extrait de ce dont était capable un Astor Piazzolla d'une trentaine d'années avec cette symphonie à Buenos Aires qui lui vaut une bourse pour aller étudier à Paris avec Nadia Boulanger, la femme qui forme à la musique classique tous les plus grands musiciens américains notamment, mais pas que. Il arrive là-bas avec des compositions de musique classique qu'elle juge assez médiocres avant de lui demander ce qu'il faisait avant de la rejoindre. Et il lui répond modestement, presque honteusement, qu'il faisait du tango. C'est elle qui va à la fois nourrir évidemment sa grande culture de compositeur, mais c'est aussi elle qui va lui dire de revenir vers le tango, qu'il a quelque chose à apporter à ce genre qu'il a formé. Suivent toute une vingtaine d'années extrêmement importantes, bien sûr, où il va fonder un octeto Buenos Aires, où déjà il commence à écrire un tango très différent de celui qui se pratique à l'époque, qui est très décrié par ses anciens camarades tanguistes. Lui se revendique presque plus du jazz. Il part ensuite à New York et il souhaite que sa carrière prenne les mêmes chemins que Lalo Schifrin, hein, qui est un peu le compositeur de musique dite classique ou savante qu'il aspire à devenir. Mais il échoue et c'est ainsi qu'il revient à Buenos Aires, où il fonde un quintetto Tango Nuevo. Première époque, puis il y a une deuxième époque, mais c'est en tout cas dans les années 60 et 70 qu'il rencontre deux figures très importantes, le poète uruguayen Horacio Ferrer et une chanteuse, Amelita Baltar, avec qui finalement il va peut-être trouver l'une des plus belles solutions artistiques à ses désirs. Avec eux, il écrit une opérette, Maria de Buenos Aires, une œuvre qui est un ovni à la fois dans la production de Piazzolla, mais dans l'histoire du tango. De là naissent des chansons qui deviennent de grandes, grandes production de Piazzolla, mais qui sont encore aujourd'hui considérés comme des chefs-d'œuvre du tango, un tango parfaitement nouveau.
Moriré en Buenos Aires, será de madrugada. Guardaré mansamente las cosas de vivir, mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen. Me pondré por los hombros de abrigo toda el alba, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada, yo estaré muerta en punto cuando sean las seis. Hoy que Dios me deja de soñar, a mi olvido iré por Santa Fe. Sé que en nuestra esquina vos ya estás, todo de tristeza hasta los pies. Abrázame fuerte que por dentro oigo muertes, viejas muertes, agrediendo lo que amé. Alma mía, vamos yendo, llega el día. No llores. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, que es la hora en que mueren los que saben morir. Flotará en mi silencio la mufa perfumada de aquel verso que nunca yo te pude decir. Andaré tantas cuadras y allá en la Plaza Francia, como sombras fugadas de un cansado ballet, repitiendo tu nombre por una calle blanca, se me irán los recuerdos en puntitas de pie.
Je mourrai à Buenos Aires, balade pour ma mort, chantée par Amalita Baltar, pour la poésie sublime d'Horacio Ferrer et le génie musical qu'on reconnaît ici d'Astor Piazzolla. On est donc au mi-temps de cette carrière inouïe, très longue, pleine de richesses. Évidemment, il serait impossible de revenir sur la carrière de Piazzolla. On ne peut que évoquer les quelques jalons qui font qu'il apporte une pierre au tango, même si à l'époque, tout le monde lui refuse ce qualificatif. Contraint d'ailleurs de qualifier sa musique, il dit, puisque personne n'accepte que c'est du tango, disons que c'est la musique contemporaine que l'on fait aujourd'hui à Buenos Aires. Même ceux qui eux aussi innovent ont du mal avec l'approche piazzolienne, qui ne connaîtra la reconnaissance de ses propres pairs que bien tard, presque trop tard dans sa vie, car au même moment, le Quartetto Cedrone par exemple fait partie des formations qui innovent beaucoup. Ils se sont formés à Buenos Aires en 64. Ils émigrent en France comme beaucoup de tangueros alors que la dictature sévit et produisent en 1974 un très bel album qui s'appelle De Argentina, le Quartetto Cedrone, qui a pour particularité d'avoir introduit dans le monde du tango, dans la musique, des poèmes, puisqu'on était vraiment sur une approche à la fois musicale mais littéraire. C'est un groupe qui s'est fondé à la fois comme un groupe musical et comme un salon littéraire, poèmes qui n'étaient pas conçus pour être chantés et qui, au fil du temps, le Quartetto Cedrone écrit presque une anthologie poétique par le tango et aussi par la musique, puisque c'est le génial guitariste Swan Cedrone qui est à l'œuvre. Écoutez ici la balade dell'ombre che se caio la bocca, un homme se tait. On parle évidemment d'une Argentine qui est en dictature.
Sale todos los días, cantan los pájaros o llueve. Alguien muere, alguien nace, alguien sufre. Y un hombre se calló la boca. Los ricos cada vez más pobres, sus armas cada vez más grandes, sus miedos cada vez más chicos. Y un hombre se cayó la boca. ¿Qué espera para hablar acaso? Es una copa no colmada. Las copas pierden con el tiempo. Y un hombre se cayó la boca. ¿Qué espera? ¿Tiene miedo? ¿No sabe? Es un mártir. Le secaron la lengua, es ciego, es sordo, que un hombre se cayó la boca. No quiere estallar, no quiere darle pedazos a la rabia. Espera, esperaba, espera, un hombre se cayó la boca. La victoria, todos hablaron, pero antes un hombre se cayó la boca. 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 Thank you.
Inédita, un autre chef-d'œuvre d'Astor Piazzolla. On est quelques années après, hein, la Balada dell'Ombre che se cayó la boca du Quartetto Cedrone, qui finira dans les années 90 par reconnaître l'apport d'Astor Piazzolla au tango. Là, on est en 77. Astor Piazzolla est à Rome, il vient d'enregistrer Libertango, qui a le succès que l'on connaît. Il est en train de devenir une figure mondiale, c'est un succès notamment aux États-Unis. C'est là qu'on commence à lui proposer des collaborations très prestigieuses avec ce qu'il considère comme des compagnons de route, c'est-à-dire les jazzmen. C'est à l'époque qu'il rencontre le saxophoniste Jerry Mulligan et enregistre avec lui. C'est aussi à cette époque qu'il propose cette bande originale géniale pour le film français Lumière avec Jeanne Moreau. Zita, ici, où l'on reconnaît les apports, on a la guitare électrique que vous entendez très clairement, une approche de plus en plus jazzistique qui marque l'une des étapes de l'évolution d'Astor Piazzolla, qui ensuite retournera à Buenos Aires de 79 à 88. Il renoue avec son quintet de la première heure. À la fin de sa vie, il sera de plus en plus à la fois novateur, il tentera de repousser les limites de sa composition. C'est à cette époque-là aussi qu'il aura certaines des rencontres artistiques les plus puissantes, notamment celle qui l'unit au Kronos Quartet. Five Tango Sensations, c'était en 91, quasiment à la fin de sa vie, et c'est assez sublime. Super reconnaissable, bandoneon de Piazzolla. On a l'impression que c'est sa voix qui parle dans cette collaboration avec les cordes magnifiques du Kronos Quartet en 1991. Piazzolla, impossible de résumer ce qu'il a permis au tango de devenir. En tout cas, il est évidemment marquant pour tous les musiciens, même ceux qui l'avaient jugé non-tanguistes finissent par se rallier à cette école, à ce qu'elle offre comme possibilité. Elle permet aussi à des gens qui n'osaient pas faire du tango, ou en tout cas proclamer leur amour pour le tango, d'investir ce chant. C'est le cas notamment de Lito Nebbia. On a parlé de cette figure hyper importante de la musique argentine dans notre émission consacrée au rock national, puisque Lito Nebbia n'est autre que celui qui a écrit le premier tube de rock argentin, grande figure, hein, l'espèce de Paul McCartney du rock argentin, et qui en 97, devenu une figure paternelle pour cette scène argentine du rock, va finir par fonder son propre label, le Melopea Records, où il ose enfin publier tous les tangos qu'il a écrits depuis sa jeunesse, sans avoir jamais osé les faire paraître, un hommage notamment à Gardel, comme si le geste d'Astor Piazzolla avait libéré tout le monde, notamment musicalement. Écoutez ces textures qui sont pas si tanguistes, alors que l'âme de ce morceau, El Futuro está en Gardel, elle vient vraiment du tango. Tenebia qui ensuite se produira sur scène avec des bandes de néons, une des possibilités offertes de faire du tango autrement, avec d'autres instruments, mais en gardant cet esprit, ces lignes mélodiques extrêmement fidèles. Évidemment, il y a l'électro-tango qu'on a entendu en introduction, celui de Tango Motan, qui est dans la droite lignée du Gotan Project 1999. C'est une alliance bretonno-argentine qui va révolutionner le tango et donc donner naissance à l'électro-tango qu'on n'aime pas forcément dans toutes ses déclinaisons, qui a un petit peu vieilli, forcé de le constater. Autre, évidemment, piste ouverte par Piazzolla, dans laquelle vont s'engouffrer de nombreux musiciens, c'est le tango qui frôle, qui se marie, qui flirte avec le jazz. On vous recommande l'excellent album de Tangophone, mais aussi cette influence, on la ressent chez ceux qui se qualifient de tanguistes punk et jazz. C'est l'Orchestra Tipica de Fiero Fernandez, qui est l'une des plus intéressantes à jouer aujourd'hui à Buenos Aires.
Nos habían suicidado los errores del pasado, corazón. Y latía rama seca, como lata en la muñeca, mi reloj. Y gritábamos unidos lo terrible del olvido sin razón. Con la muda voz del yeso, sin la gracia de otro beso, sin la suerte de otro error.
L'Orchestra Tipica Fernandez, Fiero, leur album s'appelle Destrucción Masiva, Mucha Mierda. Ça vous donne le ton des tanguistes punk qu'on aime beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission consacrée au tango. Elle a été préparée avec le concours de Luke Vauvillier et celui de la discothèque de Radio France qu'on salue ici, réalisée par l'excellent Emmanuel Benito et mise en onde par le non moins excellent Jean Guilin. Mais je n'oubliez pas que vous pouvez podcaster, réécouter la série musicale. Ça se passe sur toutes les applications de podcast, mais aussi évidemment sur celle de Radio France.
Las tristezas, presentir y dudar.